Carole Boucher, bonjour.
Bonjour, Madame Paquette.
Un plaisir de vous retrouver.
Ça me fait plaisir aussi.
Ça faisait un petit bout.
Oui.
Carole Boucher, je le disais en introduction, les jeunes aiment pouvoir entrer en contact, communiquer par Internet. C'est leur façon de faire. Est-ce la même chose pour les jeunes qui ont une déficience intellectuelle?
C'est sûr qu'il faut faire des différences quand on parle de la déficience intellectuelle, mais chez les jeunes qui présentent une déficience intellectuelle légère et qui ont plus de facilité au niveau de l'écriture et de la lecture, Internet, le web, c'est drôlement intéressant pour apprendre des choses et pour y rencontrer des gens, bien sûr.
Mm-hmm. Parce que, bien sûr, au cours de notre discussion, on va peut-être plus parler des risques associés à l'utilisation d'Internet, mais il y a quand même des bienfaits. Ça peut briser l'isolement, puis faciliter le contact avec les autres.
Tout à fait. Puis on peut apprendre plein de choses sur Internet. Ça peut être très, très, très positif. Mais autant ça peut être positif, autant ça peut créer des dégâts chez notre clientèle qui présente une déficience intellectuelle, surtout quand on parle de la sexualité, bien sûr.
Bien sûr. Vous êtes sexologue, donc on pourra en parler davantage. Mais juste avant, je disais également en introduction que ce sont parfois des jeunes plus vulnérables et j'aimerais ça que vous nous expliquiez pourquoi.
Effectivement, nos personnes qui vivent avec des déficiences intellectuelles sont extrêmement vulnérables pour toutes sortes de raisons. Tout d'abord, ils ont une très faible estime d'eux-mêmes. C'est noté et c'est étudié beaucoup, beaucoup. Ils sont souvent victimes de harcèlement, de violences de toutes sortes, d'abus de toutes sortes. Ils comprennent pas toujours les messages clairement que les gens envoient. Donc, tous ces éléments de vulnérabilité vont toujours être présents même s'ils sont sur Internet.
Mm-hmm.
Donc, ça risque d'augmenter leur vulnérabilité sur Internet et puis de faire d'eux des victimes potentielles, bien sûr.
Et il y a aussi, et on avait eu l'occasion d'en discuter lors de nos précédentes discussions, le manque d'éducation sexuelle qui peut accroître le risque quand on ne connaît pas les limites, par exemple.
Tout à fait. Alors, quand on n'a pas de réponse à nos questions, qu'on connaît pas la sexualité, qu'on n'a pas été éduqué, qu'on nous a pas parlé du consentement, entre autres, qu'on nous a pas parlé du respect de soi et du respect de l'autre, c'est sûr que ça va être difficile de faire des choix éclairés par rapport à la sexualité sur un médium comme Internet.
Oui. Et vous parliez, je trouve ça très, très intéressant, la reconnaissance des indices sociaux qui peut être parfois plus difficile pour ces jeunes-là, notamment en face à face. Mais quand ça devient sur Internet, ça devient encore plus ardu.
Il n'y a aucun contrôle. Si tu es tout seul devant l'ordinateur, il n'y a pas un petit bonhomme qui apparaît dans l'écran puis qui dit « Attention, ça se passe pas comme ça dans la réalité. » Ou si tu chattes avec quelqu'un, il n'y a pas non plus un petit bonhomme qui apparaît dans l'écran puis qui dit « Attention, cette personne-là est en train de te mentir. » Parce que n'importe qui peut mentir dans ce genre de conversation ou de contact. Alors, effectivement, la personne est seule devant son écran, puis il n'y a pas personne pour lui expliquer que peut-être être en train de se faire avoir par quelque chose de pas correct. Là.
Mm-hmm. On a parlé de chat, Carole Boucher. Est-ce que leurs intérêts, l'intérêt des jeunes qui ont une déficience intellectuelle sont les mêmes que pour les adolescents que l'on côtoie, nous, au quotidien, c'est-à-dire, bon, les chats, les sites de rencontres, les médias sociaux, également la pornographie?
C'est sûr qu'une des caractéristiques des personnes qui présentent une déficience, quand on parle de leur vulnérabilité, c'est un réseau social extrêmement faible. Alors, ils ont plus de difficultés à se faire des amis, ils ont plus de difficultés à maintenir des contacts, ils ont plus de difficultés à avoir des relations amoureuses, bien sûr, à fréquenter des gens. Donc, tous ces médias-là qui permettent de rencontrer des gens, de parler avec des gens, c'est un moyen pour eux d'avoir un contact avec du monde.
Mm-hmm.
Maintenant, on sait que ça cause énormément de problèmes parce que ils sont facilement on peut facilement leur mentir. Ils seront pas capables de détecter que la personne qui parle dit la bonne chose ou dit la chose vraie. Et puis, ils sont extrêmement vulnérables aussi à donner des informations les concernant. Alors, c'est facile pour eux de donner leur nom véritable, leur adresse véritable, leur numéro de téléphone véritable, ce qu'ils font quand il y a du monde à la maison, quand il n'y a pas de monde. Alors, ils donnent vraiment toutes les informations sans être conscients du risque qu'ils prennent en faisant ça, bien sûr.
Donc, ils sont plus vulnérables aux abus.
Extrêmement vulnérables, puis ils vont être vulnérables sur Internet, aux abus sur Internet. Alors, on sait qu'il y a des gens qui vont se faire ridiculiser sur Internet. D'abord, juste au niveau de l'écriture, hein, ils risquent d'avoir un peu de difficulté dans l'écriture. Alors, ils vont se faire repérer facilement. Ils risquent d'être ridiculisés. Tant mieux s'ils rencontrent des gens puis que ça va bien, on leur souhaite, là, mais c'est pas souvent ça qui arrive. Ils risquent de se faire prendre dans des petits réseaux de peut-être qu'il y a de la prostitution qui s'organise de cette façon-là. Si tu me donnes ton adresse, je vais aller chez toi ou je vais envoyer quelqu'un chez toi de cette façon-là. Et je vous dirais que le plus risqué, à mon sens, c'est vraiment la webcam.
Mm-hmm.
Alors, quand ils ont une webcam et qu'on leur demande de se découvrir et d'avoir des comportements sexuels sur la webcam, c'est catastrophique parce qu'ils comprennent pas, si on leur a pas expliqué, que ce qui se trouve sur le web devient universel.
Oui. Oui, ça ne s'efface pas, ça reste toujours présent.
Oui, exactement. Et n'importe qui peut utiliser et s'en servir.
Mm-hmm.
Alors, il faut faire beaucoup, beaucoup d'éducation avec eux pour leur apprendre ce que c'est Internet et comment on peut utiliser Internet.
Il y a également l'intimidation. On le sait, et ça, c'est pour tous les adolescents qui fréquentent les médias sociaux. L'intimidation qui se fait, que ce soit sur Facebook, par exemple, bien, elle se répercute jusqu'à la maison parce que l'ordinateur nous suit partout. Donc, ils sont également, j'imagine, plus vulnérables à l'intimidation.
Aussi, c'est sûr qu'à l'intimidation en réel, ça fait très mal, hein? La personne est devant toi, elle te bouscule, elle te dit des mots grossiers ou bon, peu importe. Sur Internet, ça risque d'être un petit peu plus difficile à percevoir pour nos personnes déficientes parce que la personne n'est pas là en réalité. Mais effectivement, l'intimidation peut être tout aussi importante chez cette clientèle-là.
Et ça fait boule de neige parce qu'au lieu que ce soit un petit groupe qui soit témoins, ben là, ça peut prendre des ampleurs quand on a 200, 300, 400 personnes qui nous suivent sur Facebook, par exemple. Ben, ça fait beaucoup d'yeux à voir sur les propos qui peuvent parfois être très blessants.
Exactement. C'est pas juste le monde dans l'autobus là, qui voit. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui peuvent voir et qui peuvent ajouter, hein, qui peuvent en profiter et qui peuvent ajouter.
Oui. Maintenant, on veut parler d'éducation parce que j'ai l'impression, en vous parlant, Carole Boucher, que tout passe par là. C'est en leur parlant des risques qui sont associés à l'utilisation d'Internet, puis aussi en parlant d'éducation à la sexualité qu'on peut arriver à peut-être éviter qu'il se passe des choses plus fâcheuses.
C'est sûr que la première chose qu'il faudrait faire, c'est de l'éducation sexuelle. Pour leur expliquer c'est quoi la sexualité, c'est quoi le respect des autres, le consentement. Bon, il faut leur expliquer, leur donner des réponses à tout ça. Mais il faut aussi leur expliquer ce qu'est le web, ce qu'est Internet. Donc, il faut discuter avec eux des dangers d'Internet. Il faut s'asseoir avec eux devant un ordi si c'est nécessaire et leur expliquer quels sont les dangers de cet outil-là. D'une part, il y a des petits trucs faciles. Hein. Il faut mettre l'ordinateur dans un endroit passant et non pas dans sa chambre. plus l'ordinateur est isolé, plus c'est facile pour la personne d'avoir accès à tous ces sites-là, surtout de la pornographie. Il faut, si nécessaire, mettre un contrôle parental sur l'ordinateur. C'est possible aussi. Des fois, il y a d'autres enfants dans la maison. Ça pourrait peut-être permettre que personne ait accès, entre autres, à de la pornographie ou des trucs comme ça. Mm-hmm. Dans les écoles, ils vont à l'école jusqu'à 21 ans. Dans les écoles, il y a des contrôles, en principe, qui leur permettent pas d'aller sur des sites Internet. Il faut leur expliquer où s'en vont les informations quand on les envoie sur le web. Hein. Je reviens toujours sur ça s'en va partout, puis n'importe qui peut l'utiliser. Des fois, il faut peut-être faire des tests avec eux pour leur expliquer le mensonge. Je peux être sur un chat et je peux dire que je suis une fille, que j'ai 22 ans, que je suis blonde avec des yeux bleus, et puis c'est peut-être pas ça du tout. Alors peut-être qu'on pourrait faire des petits tests hein, pour leur montrer que la personne qui vient de t'écrire ben est comme ça, mais regarde, c'est moi qui t'ai écrit sur ce message-là, donc je t'ai menti, donc les gens peuvent te mentir dans ce genre de conversation, bien sûr. Puis il faut leur dire d'accepter aucune invitation. De ne pas donner les informations personnelles et d'accepter aucune invitation. Et si jamais on voulait absolument aller rencontrer quelqu'un qui nous a invités sur le web, ben il faut leur dire que oui, je vais le permettre, mais je vais t'accompagner.
Ouais.
Qu'il y ait quelqu'un de responsable qui accompagne cette personne-là dans un endroit public, bien sûr, jamais à la maison de la personne qui donne le rendez-vous. Et comme ça, on peut voir si la personne, c'est vrai ce qu'elle a dit ou c'est pas vrai, puis on est capable d'accompagner la personne dans ce sens-là.
Mais pour ça, Carole Boucher, je vous interromps parce que, évidemment, ça résonne en moi. Il faut développer, que ce soit avec le parent ou un intervenant, n'importe quel adulte, une relation de confiance.
Oui, il faut développer une relation de confiance et il faut se dire que n'importe qui peut faire ce genre d'éducation. Hein. Je ne parle pas de l'éducation sexuelle, là, mais je parle de l'éducation au web. On parle des parents, mais ça peut être quelqu'un d'autre de l'entourage de la famille. Hein. Ça peut être un frère, une sœur, un cousin, un oncle qui a comme envie d'expliquer à la personne comment ça fonctionne. Ça peut être un intervenant. Il y a toutes sortes d'intervenants. Donc, il y a plein de monde qui peuvent se mêler de cette éducation-là, de l'utilisation d'Internet avec les personnes déficientes, bien sûr.
Est-ce qu'un petit aide-mémoire pourrait être une bonne idée, c'est-à-dire ne pas donner ton adresse, ne pas donner ton nom complet?
Oui, ça pourrait être extrêmement utile. Et dans ce sens-là, je vais vous dire, il y a des corps policiers qui ont des informations, qui ont des feuillets d'informations, qui ont des pamphlets.
Oui, des fascicules d'information.
Des fascicules d'information, ouais. Des pamphlets qui sont déjà imprimés et qui donnent des formations, d'ailleurs, sur la cyberintimidation, la cyberviolence, et qui sont prêts à donner ce genre d'informations-là. Et ça pourrait servir, effectivement, à l'entourage et aux personnes qui présentent une déficience intellectuelle. Informez-vous, il y a vraiment plusieurs corps policiers qui ont travailler sur ce phénomène-là, parce que c'est pas juste nos personnes qui présentent des déficiences qui se font avoir.
Non,
hein.
Non.
Il y a toutes sortes de gens qui se font avoir dans ces choses-là.
Oui, parce que tout à l'heure, vous parliez, Carole Boucher, des chats. Parfois, on peut donner une description erronée de nous-mêmes. Parfois, même, c'est la photo qui n'est pas la bonne.
Absolument.
Alors là, ça devient extrêmement difficile de se démêler dans tout ça. Je veux revenir en terminant. Il nous reste peu de temps, Carole Boucher, parce que vous avez parlé de consentement. Et pour vous, pour moi, c'est un vocabulaire peut-être qu'on connaît davantage, mais je veux rappeler l'importance de ça. comment on peut l'aborder avec notre jeune?
Bien, il y a plusieurs façons. Il faut vraiment commencer depuis le début quand on parle d'éducation sexuelle. Il faut travailler avec les gens à ce qu'ils comprennent bien ce que sont les émotions. Mes émotions à moi, les émotions de l'autre, parce que quand il n'y a pas de consentement de la part de quelqu'un, en général, il y a comme une émotion qui est exprimée. Alors, je suis capable de comprendre que les émotions sont reliées à un consentement et que ça me permet de comprendre que l'autre, elle veut pas ou que l'autre, il veut pas, bien déjà, on a fait un pas vers cet élément-là, vers cette éducation-là. Il faut aussi apprendre aux gens que quand quelqu'un dit non, c'est non. Ça aussi, c'est à l'envers de la pornographie, ça. Hein? En pornographie, tout le monde dit oui. C'est vraiment l'envers de la pornographie. Quand on dit non, la personne ne veut pas. Ça veut vraiment dire non. Alors oui, il y a moyen de travailler avec eux autres. Il y a moyen de faire des mises en situation. Il y a moyen de les faire parler sur le sujet. Et oui, on finit par leur enseigner, je vous dirais, minimalement, ce qu'est le consentement.
Oui.
On s'entend qu'il y a toutes sortes de manipulations possibles quand quelqu'un veut un consentement. Là, on s'entend là-dessus. Mais on peut leur donner une base minimale, au moins, sur le fait que tu as le droit de dire non et tu dois respecter la personne en face de toi quand elle dit non.
Oui. Et tout ça, bien sûr, dans le but, le souhait d'éviter le pire, c'est-à-dire l'abus sexuel. Et on sait, parce que vous nous en avez parlé précédemment dans d'autres entrevues, les chiffres sont effarants par rapport à ça.
Oui, tout à fait.
Carole Boucher, sexologue en déficience intellectuelle au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de la Mauricie et du Centre du Québec. Merci beaucoup, toujours un plaisir de vous parler.
Ça me fait plaisir, au revoir.
Au revoir.